Bonjour Éléonore Pouria.
Bonjour.
Votre livre est déjà assez avancé quand vous vous posez cette question. Ai-je le droit de déterrer les souvenirs qu'un homme a mis une vie à ensevelir? C'est cette question qui vous a taraudé pendant toute l'écriture de l'histoire d'Adrian Silencio.
Disons que j'étais en prise en permanence avec, non pas le dilemme, mais l'excitation d'être entre la réalité et la fiction. Je me suis inspirée de l'histoire de mon grand-père, qui était républicain espagnol, musicien de tango, et dont j'avais un peu fantasmé la vie quand j'étais enfant, parce que je le connaissais peu. J'ai retrouvé... des papiers, des photos, des lettres réelles et que j'ai fait parler souvent à travers la fiction. Donc je m'interrogeais évidemment sur mon statut d'écrivain puisque c'est mon premier roman et sur la place de la fiction et de la réalité dans cette écriture.
Est-ce qu'il y a un élément déclencheur à cette enquête familiale, Éléonore Pouria? Il y a ce cartable que vous avez retrouvé, bon il n'était pas vraiment caché, qui contenait des documents administratifs beaucoup de témoignages sur la vie de votre grand-père.
L'élément déclencheur, c'est mon désir d'aller vivre ailleurs que dans mon propre pays. Donc, je suis partie il y a 5 ans aux États-Unis. Cette expatriation a clairement engendré un désir d'en connaître plus sur mes racines et notamment sur ce grand-père qui venait d'ailleurs. Et comme moi-même, j'allais quitter le pays dans lequel j'avais toujours vécu, je me disais, mais alors, qu'est-ce qui va se passer dans mon pays? Que vont faire ceux que je vais laisser? Est-ce qu'ils vont m'oublier? Comment vont-ils vivre sans moi? Et moi, comment vais-je vivre sans eux?
Beaucoup de choses tournent effectivement autour de la question de l'oubli. C'est contre l'oubli aussi, ce livre?
Ah oui, c'est contre l'oubli. Je pense aussi parce que c'est un livre qui traite de la guerre d'Espagne, qui a été un sujet, je pense, tabou longtemps pour les deux pays. Moi, je ne l'ai jamais étudié à l'école. Ça n'a jamais été au programme d'aucune de mes années de collège, de lycée. Et puis à la maison, on n'en parlait pas. Oui, clairement, c'est un livre qui s'érige contre l'oubli et pour rétablir une légende familiale qui n'avait pas été transmise.
Comment définir la personnalité de ce grand-père, Adrian Silencio? Lui, il se définit comme ouvrier musicien.
Je crois qu'il était militant puisqu'il était à la CNT, il est resté toujours de gauche, fervent homme de gauche. Mais s'il était resté dans son pays, il serait fait exterminer puisqu'il était syndicaliste, il avait créé une revue de gauche. Et ouvrier musicien, c'est pas lui qui se définissait comme ça, c'est comme ça que le ministère du Travail définissait ses émigrés, musiciens d'orchestre, de tango, qui jouaient dans les club à Pigalle.
À un passage du livre, Éléonore Pouria, vous écrivez « Adrian joue du tango pour ceux qui ont les moyens d'oublier le chaos européen en buvant du champagne ». Je trouve cette phrase très dérangeante, mais c'était la réalité de l'époque. Il y avait toute une bourgeoisie qui pouvait écouter de la musique en trinquant pendant que la ville de Guernica était rasée.
Oui, parce que c'est vrai que les artistes, comme lui, partaient en tournée. Il était dans un orchestre, dans l'orchestre Canaro, qui avait beaucoup de succès à l'époque. Et ils ont été au Portugal, en Italie, en Allemagne. Il a joué dans l'Allemagne nazie, alors qu'il était lui-même républicain espagnol en fuite. Donc c'était des années de tourmente complètement folles qui ont probablement justifié d'oublier ceux qui étaient restés. À un moment, il fallait aller de l'avant, il fallait vivre sa vie au quotidien. Et je crois que ça a été ça le dilemme de mon grand-père et de ces gens, de ces émigrés qui ont dû faire face à la fois à un quotidien rude, parce qu'ils gagnaient peu d'argent en étant petits musiciens de bal, et en même temps en fondant une famille en France, en devant élever cette famille.
Alors, il y a un autre dilemme qui sous-tend l'histoire d'Adrian Silencio, Éléonore Pouria. On se demande si la narratrice admire le grand-père pour la force de ses convictions, ou est-ce que ce grand-père lui fait peur d'une certaine manière par la façon dont il a abandonné sa première famille?
Je ne crois pas qu'il ait abandonné. Je pense qu'il a assumé la famille qu'il a fondée en France et qu'il s'est attaché à respecter ce devoir-là, à être le plus cohérent possible par rapport à ses convictions. Et je pense que c'était vraiment, vraiment difficile. Mais c'était complètement lié au contexte historique. Moi, mon travail a été justement de comprendre l'ambivalence de cet homme-là et refuser de le mettre dans une case un petit peu facile qui était, voilà, c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Et les enfants ne posaient pas de questions et donc personne n'en a jamais posé.
Après plusieurs mois de recherche, il y a une réponse qui arrive d'Espagne par mail. Une réponse qui dit « Je suis le garçon » sur cette photo en noir et blanc. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ?
Une extraordinaire, évidemment, une extraordinaire émotion, une proximité, une familiarité avec quelqu'un que je n'ai jamais vu. Et donc je m'élance en Espagne, à Madrid, où je n'ai jamais été.
Et vous retrouvez donc cette famille espagnole, et en cette famille, vous retrouvez l'étranger familier.
Oui, je crois que j'expérimente cette sensation extrêmement étrange d'être chez soi, dans un pays où je n'ai quasiment jamais mis les pieds, une ville que je ne connaissais pas du tout, et je n'avais jamais vu ces gens, et on s'est pris dans les bras avec une ferveur et une tendresse qui semblait raccommoder toutes ces années de déchirure.
Merci Éléonore Pourrien.
Merci beaucoup.